franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. D'abord, j'ai cru que c'était une blague. Charlotte Casiraghi dans Philosophie Magazine. Charlotte, la fille de la princesse Caroline de Monaco. Charlotte, l'égérie de deux marques de luxe et qu'on voit chaque semaine en photo sur le papier glacé des revues People. J'ai donc cru que c'était une blague, mais non, car ce que je ne savais pas, c'est que la demoiselle était également une férue de philosophie. Son prof de terminale dit d'elle qu'elle a été la meilleure élève qu'il ait eue en 40 ans de carrière. D'ailleurs, elle a ensuite obtenu une licence de philo à la Sorbonne. Et c'est à son initiative que se dérouleront, à partir de la semaine prochaine, les premières rencontres philosophiques de Monaco.
Vous, vous faites partie des hommes qui pensent que quand une femme est jolie, elle doit forcément être bête.
Une multitude de débats. Jusqu'au printemps prochain, dans les lycées et les théâtres de la principauté, débats philosophiques sur le thème de l'amour. Et c'est pour cette raison que Philosophie Magazine lui a ouvert ses colonnes en lui proposant une rencontre sur le thème de l'amour avec le philosophe André Comte-Sponville. Une conversation réjouissante qui montre donc que Charlotte est une jeune femme qui pense, une jeune femme qui
incroyable.
Pense bien. N'en déplaise à ceux qui voudraient que les filles de princesse ne soient que des gravures de mode. Elle cite Yankelevitch, il faut tenir le maximum d'amour dans un minimum d'être. Elle cite Marcel Conche, le dialogue des amants est un dialogue philosophique. Elle cite aussi le psychanalyste Winnicott et elle explique que la philo a transformé sa vie. La compagnie des philosophes, dit-elle, m'a donné l'impression que je n'étais pas seule. Ce n'était donc pas une blague, la solitude, l'amour et la philosophie sur le rocher de Monaco, mais pour le reste, dans la presse, on parle assez peu d'amour et assez peu de philosophie.
Oui, en revanche, il est question beaucoup des suites de l'affaire des moteurs diesel truqués du groupe Volkswagen, le fameux Volkswagen-Gate.
Notamment dans la presse allemande, avec les révélations du quotidien Bild. D'après le journal, c'est l'équipementier allemand Bosch qui aurait fourni en 2007 à Volkswagen le logiciel qui se trouve aujourd'hui au cœur du scandale, mais tout en indiquant que le dit logiciel était uniquement prévu pour des tests en interne et que c'était illégal de l'installer ensuite sur des voitures. Visiblement, le constructeur n'a pas souhaité tenir compte de cette dernière précision. Grand dossier dans le JDD, la vérité sur le diesel, dossier qui revient notamment sur tous les dangers avérés de l'usage du gazole. Danger pour la santé publique à cause des particules fines, lesquelles provoqueraient en France entre 20 000 et 40 000 décès prématurés chaque année. Par ailleurs, Ségolène Royal annonce que des contrôles aléatoires seront organisés dès cette semaine sur une centaine de modèles commercialisés dans le pays.
Dans les journaux, il est aussi question des suites de la nouvelle affaire touchant la FIFA, le fameux FIFA-gate.
Et oui, notamment dans la presse suisse, avec les révélations de l'hebdo Schweiz am Sonntag, Joseph Blatter et Michel Platini feraient aujourd'hui l'objet d'une enquête du comité d'éthique de la FIFA. Mais oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, la FIFA dispose d'un comité d'éthique. Pour le reste, l'équipe nous explique que Platini, acculé en défense, ne cesse de s'activer pour sauver sa candidature à la tête de l'organisation. Quant aux Parisiens et au Journal du Dimanche, tous les deux ont interviewé le même spécialiste, en l'occurrence Andrew Jennings, journaliste écossais, qui a pendant 15 ans enquêté sur la corruption au sein de la FIFA. Il dit à peu près la même chose dans les deux interviews. Et les deux journaux ont choisi de faire leur titre avec l'une de ces citations, ce qui donne dans le Parisien « Je n'ai jamais rien trouvé sur Platini » et dans le JDD « Il n'y a pas de fumée sans feu ». De fait, cet expert dit les deux choses à la fois, mais le choix de ces citations ne provoque évidemment pas le même effet sur le lecteur.
Dans la presse, on parle également de politique ce matin. Toujours pas de philosophie.
Non,
donc
pas de philo, mais de l'amour, Patricia. Oui. Et oui, si l'on en croit le Journal du Dimanche, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé auraient convenu de calmer le jeu lors d'un déjeuner mercredi dernier. Fini les attaques, enfin pour le moment, commente le juppéiste Benoît Apparu. Entre eux, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est plutôt 50 nuances de gris de l'amour, donc, mais de l'amour vache. D'ailleurs, tous les deux s'afficheront ce matin côte à côte à l'occasion d'un meeting de Valérie Pécresse en vue des régionales. François Fillon et Bruno Le Maire seront là également, belle image d'unité. Mais Christine Olivier nous apprend que Sarkozy a piqué une petite colère en découvrant que sur les cartons d'invitation, son nom était au même niveau que celui des autres. Une provocation d'après lui. Les cartons ont donc été réimprimés avec cette fois son nom écrit beaucoup plus gros. On ne se refait pas. Politique toujours, avec ce sondage inquiétant pour le Parti Socialiste dans le Parisien pour les régionales. Les listes de droite arrivent très loin devant dans les intentions de vote. Celles du FN sont deuxième et celles du PS arrivent en troisième position. Le Parisien qui nous donne par ailleurs des nouvelles de Jean-Louis Borloo. Depuis plusieurs mois, là aussi j'ai cru que c'était une blague, le fondateur de l'UDI conseille le Premier ministre grec, Alexis Tsipras. Il lui rédige des notes sur le redressement de son pays et sur la valorisation de son patrimoine culturel.
La lutte contre le groupe État islamique continue également de nourrir les journaux.
Vous lirez ainsi dans Le Parisien une interview de l'ex-Valéry Giscard d'Estaing qui propose d'envoyer des casques bleus de l'ONU pour pacifier la Syrie. Et pourquoi pas, dit-il, sous commandement français. Et puis dans Paris Match, il y a ce reportage proprement ahurissant de Pauline Delassue. Rencontre en Belgique avec un homme de 25 ans que l'hebdomadaire présente comme le boulanger de Daesh. Ahurissant, disais-je, car cet homme-là semble n'avoir aucune morale, pour ne pas dire aucun cerveau, ou du moins aucune conscience, aucune notion de ce que sont le bien et le mal. Son enfance, il la passe à Anvers. Dans une famille catholique, le dimanche, il est enfant de cœur. À l'époque, il s'appelle Michael, mais à 17 ans, il se tourne vers l'islam et Michael devient Younes. Changement de prénom, changement de religion, radicalisation, jusqu'à son départ en Syrie, dans la région d'Alep, pour rejoindre les troupes du groupe État islamique. Là-bas, il passera 6 semaines avant de rentrer en Europe pour des raisons qu'il n'explique pas. À son arrivée l'an dernier, il est cueilli par la police et il fait alors 2 mois de prison, mais il est ensuite relâché car il n'existe pas de preuve de sa participation à des actes terroristes. Et depuis, l'ancien combattant a donc ouvert une boulangerie dans sa ville natale à Anvers. Une reconversion commerciale, mais reconversion de façade, car Younes ne regrette rien de son séjour chez les djihadistes, ni regret, ni remords, ni culpabilité, bien au contraire. Quand il raconte le conflit, les armes et les villages en ruine, c'est comme s'il racontait un séjour au Club Med. Il continue à défendre haut et fort les délires de ces fous de Dieu auprès desquels il a vécu, les coups de fouet sur les prisonniers. C'est, dit-il, une méthode efficace pour obtenir des résultats. La destruction des temples de Palmyre, ces lieux, dit-il, étaient des lieux de mécréance. Les femmes yézidis vendues comme esclaves et volées. Être esclave, dit-il, c'est toujours mieux que de mourir. Une rhétorique insupportable, reconnaît ma consoeur, qui nous apprend que le boulanger sortira un livre en janvier chez un éditeur parisien, un éditeur dérangé par l'idée de publier le récit d'un décérébré idéologue de la haine. On se demande si le fait de lire ce récit dans les journaux n'est pas déjà très suffisant.
Un autre papier sidérant, Frédéric, dans Courrier International cette fois.
C'est un entretien publié tout d'abord dans l'hebdomadaire allemand Die Zeit. D'ailleurs, ce n'est pas un entretien, mais un double entretien. Une double interview de 2 Américains qui ont été retenus en otage en Syrie. À quelques semaines d'intervalle, le journaliste Théo Padnos et le photoreporter Matthew Schrier ont été kidnappés par des militants du front Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Tous les deux ne se connaissaient pas. Ils ont donc pendant 7 mois partager la même cellule. Et si, comme le dit le journal, il s'agit là d'un document absolument exceptionnel, c'est parce que ce que ces deux hommes rapportent de leur captivité ne ressemble à rien à ce qu'on s'attendrait à lire et à entendre. Enfin, disons plutôt qu'ils ont tous les deux l'honnêteté de dire ce qui fut le pire pendant leur séquestration. Or, pour eux, le pire, ce ne fut pas la peur de mourir, ce ne fut pas les privations de nourriture, pas même les séances de torture, non, le pire, ce fut de partager la même cellule. Et c'est donc ce huis clos qu'ils décrivent, chacun à leur manière, sachant qu'ils n'ont accepté de répondre aux questions qu'à la condition d'être interviewés séparément pour ne pas se croiser, ne jamais se croiser après 7 mois passés à se haïr quotidiennement. L'enfer, c'est les autres, écrivait Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est l'autre, se dit-on en lisant ces 2 interviews. Pour finir, un petit peu plus léger, avec une histoire que nous rapporte Marianne cette semaine, une évasion dans une école maternelle. 2 petits bambins de 5 ans ont creusé un petit tunnel et se sont échappés de leur école en Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitaient aller à un rendez-vous automobile qui présentait de belles bagnoles. Ils se sont fait arrêter, les petits ont expliqué « On n'a pas d'argent, mais on voulait s'acheter une Jaguar ». Comme le disait le philosophe dont je tairai le nom, si t'as pas ta Jaguar à 5 ans, t'as raté ta vie.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.